De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonjour, c'est Gulliver, le magazine qui vous parle du monde tel que nous le racontent romans et ses récits, carnet de voyage ou reportage. Aujourd'hui, nous ferons un gros plan sur un roman, le roman de Saïd Sayag. Ce sera ensuite Grand Angle avec la revue Bout du Monde et l'un des derniers numéros du magazine littéraire. Et nous terminerons bien sûr, comme toujours, par la revue de presse.
Gros plan.
Bonjour Saïd Sayag.
Bonjour.
Alors vous nous rendrez visite pour un livre qui vient de paraître il y a quelques mois, qui s'intitule « Et à l'eau, tu retourneras ». C'est un roman, c'est votre deuxième livre après un précédent dont le titre était « L'autre juive ». Peut-être on l'évoquera tout à l'heure. Pour évoquer un peu le climat de votre univers. Alors ce roman, « Et à l'eau, tu retourneras », c'est plusieurs romans en un, on pourrait dire, puisque c'est d'abord une histoire qui se passe dans une région du Maroc, notamment une ville qui s'appelle Khénifra. Et c'est déjà le portrait d'une ville.
Oui, Khénifra est une ville qui se situe en plein Moyen Atlas, et c'est une ville éminemment berbère, amazigh, comme le disent les habitants de cette région. Amazigh, en berbère, veut dire l'homme libre, mais aussi l'homme qui habite la terre. La terre se dit aussi en langue berbère « tamazirt ». Voilà.
Alors, on a compris que vous maîtrisez parfaitement la langue arabe, puisque vous êtes traducteur, vous êtes agrégé d'arabe et vous l'enseignez. Vous êtes natif de cette région, vous n'êtes pas natif exactement de Khénifra, mais vous y êtes, c'est une région qui vous est chère. Et on voit bien dans le livre que le rapport à cette région-là, à l'environnement de cette ville et à cette ville elle-même, que vous appelez Ville Rouge, est très important pour vous.
Oui, je ne suis pas né à Khénifra, je suis né au pied du Moyen Atlas, à Meknès, et mes parents sont allés dans le Moyen Atlas pour des raisons professionnelles, pour le travail de mon père. Donc j'ai passé toute mon enfance dans le Moyen Atlas, toute ma scolarité, entre Khénifra et une ville qui est à 80 km, qui s'appelle Azrou. Azrou veut dire le rocher. Et dans cette ville, il y a toujours un grand établissement scolaire qui s'appelle aujourd'hui le lycée Tariq et qui, du temps du protectorat français au Maroc, s'appelait le collège berbère.
Ah d'accord.
Voilà.
Donc déjà, on a un éclairage particulier sur la présence berbère, précisément.
Voilà, sur la présence berbère, mais aussi sur la spécificité de cette région. C'est une région de montagne, c'est le réservoir d'eau de tout le Maroc. C'est une région c'est le château d'eau du Maroc. Et puis, il y a d'autres éléments. Il y a une très grande forêt de cèdres, on parle du Liban, qui est un très beau pays, où il y a bien sûr des cèdres dont parle la Bible et toute l'histoire ancienne du Moyen-Orient. Mais la plus grande forêt de cèdres se trouve dans ce Moyen Atlas.
C'est le paradoxe d'ailleurs de votre livre, c'est que l'essentiel du livre se passe dans une région dont c'est pas l'image d'Épinal qu'on a du Maroc habituel. Quoi. C'est, là, on est dans un univers d'eau, d'où le titre bien sûr, dans un univers d'arbres, de forêts, d'une nature qui n'est pas du tout l'image habituelle que l'on a un peu désertique du Maroc.
Oui. Alors, je vous rappelle quelque chose. Les géographes français, quand ils sont arrivés au Maroc, ils ont laissé une phrase qui est devenue assez descriptive et juste à propos du Maroc. Ils ont dit que le Maroc était un pays froid où le soleil est chaud. Et alors, comment on l'explique ? Le Maroc est un pays d'altitude assez élevée. Parce que c'est un pays de montagne, il y a des chaînes assez hautes. Le mont Toubkal est à 4165 mètres. Aujourd'hui, il y a des stations de ski aussi bien dans le Haut Atlas que dans le Moyen Atlas. Mais ces choses-là, bien sûr, on n'en parle pas assez. Oui, on préfère, bien sûr, évoquer le soleil et puis...
Et la mer.
Et oui, parce que c'est plus... on se sent expatrié quand on évoque le soleil. Voilà.
C'est l'exotisme maritime qui domine dans l'image que l'on a habituellement du Maroc, voilà. Et notamment la côte avec, évidemment, Tanger, Casablanca, enfin, beaucoup de villes de ce type-là, quoi. C'est un peu un stéréotype quand même.
Oui, c'est un stéréotype, mais les Français qui connaissent le Maroc connaissent ces choses-là, ils le savent.
Alors voilà. c'est l'intérêt de votre roman que de nous plonger dans dans cet univers, je dirais, de nature extraordinaire, quoi, avec une prédilection particulière pour la rivière, pour l'eau, pour cette rivière dont vous parlez souvent, assez longuement dans le livre.
Oui, cette rivière, qu'on appelle rivière, mais qui est en fait un fleuve qui prend ses sources dans cette région, à côté d'un lac qui s'appelle le lac Agelmam Azgza, qui veut dire en berbère le lac bleu. Ensuite, après des méandres, il descend jusqu'à l'Atlantique, au sud de Casablanca, entre Azemmour et El Jadida actuellement. Donc c'est un très long fleuve, et c'est un fleuve permanent. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de divinité pour les habitants de cette région. Il est divinisé, on raconte beaucoup d'histoires un peu mythiques, par exemple qu'il veut chaque année une quarantaine de martyrs qui s'y noient. C'est un fleuve auquel on reconnaît une puissance un peu dévastatrice. Effectivement, moi j'ai vu des inondations inimaginables où on a l'impression qu'il n'y a plus d'horizon, que l'horizon c'est l'eau de ce fleuve, mais aussi c'est le fleuve qui donne de l'eau à boire, de l'eau pour irriguer, parce que c'est, même si c'est un peuple de nomades, c'est un peuple aussi d'agriculteurs, hein, une agriculture vivrière très, très importante qui permet aux berbères de la montagne de survivre.
Alors, on va essayer de se mettre encore plus dans ce climat de cette région avec de la musique, et une musique que vous nous commenterez par la suite. Écoutons.
Yusen, Yusen, Şarim.
Donc là, c'est une version moderne de la musique berbère. Alors on entend des instruments nouveaux, il y a des guitares, il y a des cymbales, il y a des... Alors que la musique, par exemple, telle qu'elle est chantée par Ruisha, que j'évoque dans le roman, elle est jouée avec un seul instrument qui rappelle un peu la kora africaine. Mm-hmm. C'est une sorte de petite guitare fabriquée manuellement avec une peau de mouton qui recouvre une sorte de petite caisse et un manchon assez long. Et puis, trois cordes en boyau.
Grande économie de moyens.
Voilà. Mais cet instrument est suffisant pour donner de très belles mélodies. Maintenant, la thématique de la musique berbère est une thématique que je dirais universelle. Et le thème le plus récurrent est celui de l'amour. Et là se situe la différence avec la musique arabe. L'amour y est décrit comme quelque chose de libératoire, comme quelque chose de naturel. Il n'y a pas les histoires du guardador, c'est-à-dire de celui qui est là pour surveiller le déplacement d'une jeune fille. La rencontre et le fait de dire qu'on aime est possible. Et justement, cette chanson-là évoque ce thème-là.
Donc ça, c'est de la musique contemporaine, c'est des choses qu'on peut entendre aujourd'hui.
Voilà, donc là, c'est la musique qui s'entend aujourd'hui au Maroc. C'est les nouveaux chanteurs. Ruisha, qui est mort cette année, a été, pour beaucoup des jeunes musiciens, la référence. Hein. Il est toujours.
Alors venons-en à l'histoire même de ce roman. Donc, c'est un roman à la première personne. Il y a un narrateur. Bon, on ne va pas gloser sur l'aspect autobiographique parce que ce serait trop simple, trop facile en même temps. C'est un narrateur qui fait une sorte de flashback. Il revient en arrière et il peut-être reconstitue. À un moment donné, vous parlez de la mémoire. Dans le roman, vous dites que la mémoire sélectionne, elle fossilise, etc. Et donc, il reconstitue... au fond, son enfance, son adolescence et le passage à l'adulte. C'est un petit côté, c'est un peu roman initiatique. On suit l'éveil de ce jeune garçon au statut d'homme.
Oui, c'est un roman initiatique qui suit la démarche de l'évocation. Donc, l'évocation de cette tranche de vie... au Moyen Atlas, dans cette région presque édénique, c'est comme un retour au paradis perdu, mais dans l'évocation. Et au travers de l'évocation, il y a aussi le pendant infernal, qui est celui de l'injustice, de l'arbitraire, de l'inégalité imposée, d'une façon de penser imposée et qui se veut exclusive et unique. Et toutes ces choses-là se retrouvent aussi dans le roman.
Tout à fait. On alterne entre la vie un peu extraordinaire, un rapport à la nature extrêmement sensuel du narrateur, et puis la vie sociale qui, elle, par contre, est extrêmement dure, presque violente par moment. Alors, il y a un personnage qui est un peu clé dans ce roman. C'est une femme, une jeune femme d'abord, que rencontre le narrateur, avec qui est souvent associée d'ailleurs au fleuve, à l'eau, avec qui il y a des bains extrêmement évocateurs. On a là un climat... d'éveil d'essence un petit peu, et cette jeune femme sert en quelque sorte de guide vis-à-vis de ce jeune homme.
Oui, alors l'initiation justement de ce jeune homme se fait grâce à cette jeune fille depuis l'enfance, la petite enfance où le narrateur la découvre en arrivant vers les sources de l'Oumerbia. Il découvre justement cet espace du paradis, un espace édénique. Les femmes se baignent nues, se lavent, les hommes sirotent le thé, les enfants barbotent et mama. Et puis la vie de cette petite fille va devenir petit à petit un enfer. Elle sera amenée à s'exiler, à aller dans la grande ville qui est Khénifra. Elle sera obligée de se vendre elle-même, de vendre ses charmes. Et elle finira, bien sûr, d'une façon tragique. C'est une trajectoire qui est très courante au Moyen Atlas, de ces jeunes femmes qui se retrouvent à Khénifra. Puis on les retrouve ensuite dans des maisons, l'équivalent un peu des maisons closes, et puis qui finissent très mal à la fin. À tel point que les gens des villes, les bien-pensants, quand ils évoquent Khénifra, pour eux, c'est l'équivalent des bordels, bien sûr.
D'ailleurs, ce qui est le plus tragique, c'est de voir que l'innocence, la fraîcheur de cette personne, de cette jeune fille, va se retourner au fond contre elle. Et c'est de ça dont elle va souffrir, en quelque sorte, ce qui est particulièrement injuste.
Oui, et elle, pour moi, c'est vraiment l'exemple même du peuple berbère. Elle le personnifie. Le peuple berbère, on oublie aujourd'hui les choses de l'histoire, alors que les berbères ont donné des penseurs aussi bien au temps des Romains que plus tard. Saint-Augustin était berbère, mais il y a d'autres penseurs. Il ne faut pas non plus oublier que même pour la civilisation égyptienne, il y a eu des pharaons d'origine berbère. Chechonk était un berbère, et dans les frises qu'on peut lire aujourd'hui en hiéroglyphes, on trouve cette histoire-là évoquée. D'ailleurs, la langue berbère est une langue cousine de l'égyptien ancien tel qu'il était parlé
par
les pharaons.
D'accord, donc la langue berbère n'a strictement rien à voir avec la langue arabe.
Non, pour les linguistes, c'est une langue kamito-sémitique, alors que l'arabe est une langue sémitique. Donc, elle a beaucoup plus de parenté avec l'hébreu, l'araméen
oui.
Et certaines langues qu'on trouve en Éthiopie, comme le gaz, comme l'amharique, etc., qui sont des langues sémitiques. Alors que le berbère est une langue kamito-sémitique.
Alors, ce qui va se passer entre ce jeune homme et cette jeune fille, se passe dans une société qui est extrêmement contraignante, assez violente. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est l'islam qui, au fond, impose ce mode de vie ?
Oui, je pense que l'islam est arrivé avec des conquérants. Hein. Il n'est pas arrivé avec des missionnaires paisible pour propager la parole du ciel. Non, c'est des conquérants qui sont venus, ils ont conquis toute une région, tout le nord de l'Afrique et par la suite l'Espagne, et qui ont imposé des règles. Ils ont ramassé le butin et ils ont appliqué le partage du butin tel qu'il est mentionné dans le Coran. Donc c'est une démarche de conquête. Et les Berbères, bien sûr, ont vu des conquérants avant les Arabes, mais ils ont vécu avec ces conquérants. Par exemple, les Romains, ils avaient conquis l'Afrique du Nord. Il y a un limès, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas descendus très loin. Le limès se situerait un peu aujourd'hui au nord, dans la région de Meknès. Et dans le cadre de ce limès, beaucoup de berbères pouvaient accéder à la citoyenneté romaine. Et par exemple, Apulée, qui est un historien, c'était un berbère. Il a d'ailleurs décrit certaines formes de religion entre guillemets, païenne d'Afrique du Nord. Et il a écrit en latin. Et ensuite, il y a eu des vandales. Ensuite, il y a eu la conquête arabe qui, elle, a été une conquête pratiquement définitive.
Alors, dans la dureté de cette vie en société, bon, l'oppression religieuse est claire et nette. Et on a un peu l'impression quand même qu'il y a une forme d'appauvrissement de la vie. Que les gens, au fond, vivent sans arrêt en s'auto-régulant, en s'auto-censurant vis-à-vis du regard des autres. Et tout ça se fait réciproquement. C'est une société de surveillance, d'auto-surveillance.
Oui, c'est une société de l'arbitraire, très hiérarchisée, comme le veut d'ailleurs la loi même des conquérants. Il y a en haut de la classe dominante les gens qui descendent du prophète ou qui sont supposés descendre du prophète. Ensuite, ceux qui ont participé à la conquête et qui sont généralement de la tribu mécoise de Quraysh. Et ensuite, ceux qui ont participé pas par la guerre, n'ayant pas participé avec leurs épées, mais qui ont fait un effort, par exemple, d'approvisionnement ou qui ont armé un cavalier ou des choses comme ça, eux aussi sont un petit peu plus bas, mais ils restent quand même dans la classe dominante. Et puis, le peuple conquis, qui lui, il perd sa terre, il perd sa culture, sa langue, il devient dominé.
Yeah.
Alors là, on a une musique plus traditionnelle, plus ethnique, on pourrait presque dire.
Oui, oui, cette musique-là, elle est plus proche de ce qui était de l'époque du roman.
Le roman.
Donc, la musique berbère est très riche, et puis c'est une musique qui est basée sur la poésie. Là, c'est un cas de musique responsielle où le M dièse, ça veut dire le poète, chante, récite des vers, soit qu'il a composé lui-même ou qu'il a appris par cœur d'un M dièse qui l'a précédé. Et puis, souvent, il y a un chœur de femmes et un chœur d'hommes qui lui répondent ou qui se répondent entre eux. Et puis, il y a la musique festive qu'on appelle Ahidous au Moyen Atlas et Ahouach dans le Sousse, qui sont les célébrations des principales fêtes agraires, la fin de l'été et donc l'automne, qui est une époque importante. On se prépare pour l'hiver, on a fait les vendanges, on a fait toutes les récoltes, et puis en attendant de rentrer en léthargie hivernale, eh bien, on célèbre les rencontres, les mariages, etc.
C'est une musique de tradition orale, donc.
Oui, la musique et la poésie sont de tradition orale. Ça se transmet de maître en maître. Et aujourd'hui, il y a, avec le retour de cette conscience berbère qui commence un peu à s'installer au Maroc, où les gens veulent retrouver leurs racines. Donc, on va chercher de nouveau ce qu'ont laissé les anciens. Et je pense que c'est une bonne chose aussi pour la langue. C'est quelque chose de très important. On retrouve la langue au travers de ces chants, de ces musiques traditionnelles. Et en même temps, on essaie de fixer une grammaire, une syntaxe, etc. pour la langue, qui devient une langue non seulement nationale, mais aussi une langue officielle enseignée dans les établissements au Maroc. C'est un progrès assez important.
Ah oui, parce que coup, l'arabisation n'est pas totale. Il y a le berbère a résisté.
Oui, c'est certainement une résistance, peut-être pas par les armes, mais c'est une langue qui n'a pas disparu. Mmh. On aurait pu l'imaginer disparaître, comme c'est le cas au Moyen-Orient. Des langues sémitiques cousines de l'arabe ont disparu. Tous les sémites du Moyen-Orient ne sont pas arabes. Il y avait des araméens, il y avait des chaldéens, des cananéens, etc. Et toutes les langues qui étaient parlées par ces gens, et d'ailleurs ces gens-là ont été ceux qui ont permis à la langue arabe d'évoluer, de devenir ce qu'elle est, parce que ce sont eux qui ont traduit du grec et du latin d'abord en araméen et ensuite en arabe.
D'accord. Alors, pour revenir un petit peu au roman et à ce personnage féminin qui est absolument extraordinaire, que le narrateur décrit avec des yeux de l'amour, donc avec quelquefois une attirance et puis quelquefois une espèce d'horreur vu la situation qui lui est faite. Au fond, vous faites un petit peu le portrait de la situation de la femme d'aujourd'hui dans cette région et au Maroc en général.
Oui, bon, c'est vrai que le narrateur, il raconte sa vie et donc son expérience, mais l'auteur, il veut faire passer une information, des choses que les gens ignorent à propos de la situation d'abord de la femme et ensuite de cette culture qui est le substrat de toute l'Afrique du Nord. Alors, je n'ai peut-être pas besoin de le rappeler, mais toute l'Afrique du Nord jusqu'à l'ouest de l'Égypte et jusqu'au Tchad actuel et au Mali étaient des régions berbères, où les gens parlaient le berbère, ils se reconnaissaient malgré les différences d'une région à l'autre. La région de Siwa à l'ouest de l'Égypte est encore aujourd'hui une région berbère où les gens parlent
entendent
encore.
Cette langue.
Oui, ils l'entendent. Et il y a une femme parlementaire dans le Parlement égyptien actuel qui essaye, avec ses moyens, de défendre la spécificité culturelle berbère, même en Égypte.
Alors, dans votre premier ouvrage, qui s'appelait donc, je l'ai dit tout à l'heure, L'autre juive, vous évoquiez un fait réel qui est arrivé à une vraie femme, on peut dire,
oui.
Qui donc s'appelait Sol ou Zulika, selon oui. que l'on utilise l'une ou l'autre langue. Vous pouvez nous raconter succinctement ce qui est arrivé à cette jeune femme ?
Oui, donc là, on se situe un petit peu en amont. On est au 19e siècle, on oui. est dans les années 1830 à peu près. Et c'est une jeune juive de Tanger et qui a été dénoncée au pacha comme par une voisine musulmane.
Qui lui voulait que du bien en plus.
A priori, ouais. Elle lui voulait du bien puisqu'elle voulait qu'elle devienne musulmane. Donc elle a dit au pacha qu'elle l'a entendu dire le credo musulman, qu'on appelle la shahada. Mais c'est une fille de 13-14 ans. Je ne vois pas comment on peut obliger une fille à dire que, même si elle a récité ou dit une phrase, peut-être qu'elle ne comprenait pas tout à fait le sens. Et le pacha, il a bien sûr tenu compte du témoignage de la femme musulmane qui s'appelle Tara. Et donc, il a convoqué la jeune fille. Et il a exigé d'elle, en appliquant bien sûr les règles de la loi musulmane, d'écouter, d'entendre de la bouche de la jeune fille la même shahada. Mais la jeune fille, elle a compris que ça ne pouvait qu'être grave, donc elle a dit que pour elle, il n'était pas question qu'elle devienne musulmane. Ses parents sont juifs et elle ne connaissait pas autre chose pour devenir musulmane. La communauté juive de Tanger a commencé à bouger pour essayer de sauver la petite fille. Ils ont envoyé des émissaires à Fès qui ont facilité l'arrivée de la jeune fille. Mais là, c'est le sultan qui a été informé. Cette jeune fille était très belle. Et donc le sultan, soit il est tombé amoureux, il l'a désiré, quoi, ou il la voulait pour un de ses neveux. Il y a plein de versions parce que les gens, bien sûr, sont loin de l'histoire, donc ils ont raconté des choses qu'ils ont entendues. Le problème de cette jeune fille, c'est que elle a été constante. Elle a refusé même les conseils donnés par des rabbins qui lui ont dit que pour sauver sa vie, il fallait qu'elle se convertisse, même si elle pouvait
par
le faire.
Par sécurité, en quelque sorte.
Voilà, elle pouvait le faire de façade, ou même de se convertir. L'important, c'était de sauver sa vie, parce que sauver la vie est l'essentiel dans la pensée juive. Donc, elle a refusé, elle a insisté, et finalement, elle a été décapitée en 1834. Voilà, c'est une histoire...
C'est un fait réel.
C'est un fait réel qui a été confirmé par des recherches historiques. On a un document, c'est les écrits du journalier du consul d'Angleterre à Tanger à l'époque, qui s'appelle Sir Drummond Hay, qui a laissé donc dans le registre, et le document se trouve aujourd'hui au Foreign Office, donc il n'y a pas de problème.
Il n'y a aucun doute.
Et déjà en 1840, il y a eu un livre qui est paru à Gibraltar à l'occasion de... qui rappelle cette histoire. Il y a eu beaucoup de récits très, très variés. J'ai appris par la suite que dernièrement, il y avait une Israélienne qui s'appelle Juliette Assin, qui a écrit un document qui fait une compilation de tous les récits, un travail de critique historique et qui fait aussi référence à ce roman. Oui.
D'accord. Cette histoire soulève d'ailleurs une des choses qui est très présente dans votre roman, c'est que ces Berbères, et le narrateur entre autres, vous dites que ils sont issus d'un peuple berbère qui avait été judaïsé, enfin, ou en tout cas qui ont donc été ensuite islamisés un peu par la force.
Oui, l'arrivée des Juifs est très ancienne en Afrique du Nord. On pense que c'est bien avant même la destruction du temple, mais probablement le gros du peuplement juif qui est arrivé en Afrique du Nord s'est fait à la suite de la destruction du temple. Et le judaïsme n'est pas une religion prosélyte, donc les Juifs se sont installés avec les Berbères, ils ont adopté la langue aussi des Berbères, mais certainement leurs voisins ont adopté aussi certaines traditions juives, probablement sans qu'il y ait une conversion, ils sont devenus juifs par
l'usage.
Par l'usage, voilà. Et c'est des choses qui ont duré des siècles. Même aujourd'hui, certaines femmes dans certaines régions berbères du Maroc, tout en étant musulmanes, le vendredi soir, elles arrêtent de leur tissage de tapis. Elles recouvrent leur métier par un linge blanc. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi vous vous arrêtez le vendredi et vous... Eh bien, c'est notre tradition. Elles ne savent plus pourquoi.
Elles font Shabbat sans le savoir.
Voilà.
D'accord, on voit bien là.
Aujourd'hui, en Israël, il y a une proportion des Juifs d'origine marocaine qui se reconnaissent donc comme berbères et qui continuent la culture berbère par la musique, par beaucoup d'autres moyens. Il y a eu dernièrement le film d'un jeune Marocain de Tinrir qui s'appelle Kamal Ashkar, donc qui est d'une famille musulmane. Il a fait un film intitulé Tinrir Jérusalem. Et il a suivi l'itinéraire de juifs berbères originaires du Maroc, notamment de cette ville qui est dans le Haut Atlas, qui s'appelle Tinrir, jusque dans la banlieue de Tel Aviv. Et il a trouvé des gens qui connaissent encore les chants traditionnels, les Ahwash et les Ahidous. Et d'ailleurs, il y a dans le film, il y a des femmes qui ont chanté de façon admirable des choses qui font partie de leur culture.
En vous entendant parler, je me dis qu'au fond, ce roman, c'est à la fois une façon de renouer pour vous, en tant qu'auteur, avec peut-être un ancrage quelque part, et en même temps, c'est un formidable hommage au peuple berbère.
Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce peuple courageux, qui luttent, mais de manière pacifique. Ce ne sont pas des gens qui ont résisté à l'islamisation. Il y a eu une résistance au début. On évoque souvent dans l'histoire la résistance de la Kaïna, qui a effectivement combattu pour protéger son peuple, son identité et sa langue, mais qui a été tuée par les conquérants et qui a demandé à ses fils de ne pas continuer la guerre, parce que sinon il serait exterminé. Elle a compris l'agressivité et la force de frappe de ces cavaliers venus d'Orient qui avaient une parole à propager, mais par le glaive. Mm-hmm. Voilà.
C'est un combat qui est encore prêché.
Oui, bon, bien sûr, c'est quelque chose qui existe toujours. Et aujourd'hui, il se trouve que beaucoup de peuples qui ont été soumis, qui n'avaient plus de parole, aujourd'hui se mettent à parler. Moi, je pense aux Kurdes, je pense à même des Araméens qui commencent à renouer avec leur histoire. Et puis, bien sûr, les Berbères qui sont les plus nombreux et qui ne se sentent pas du tout orientaux. Hein. Juste un petit rappel là aussi, le mot Maghreb veut dire l'extrême Occident.
Qui s'oppose à Mashrek, d'ailleurs, je crois.
Voilà.
Voilà. Qui est, lui, le Proche-Orient, donc.
Voilà, qui est le Moyen-Orient.
Donc, il y a bien une différence. L'extrait musical qu'on va écouter va nous amener dans une région très différente, mais qui n'est pas sans rappeler ce dont on vient de parler.
Borocante, Borocante,
Borocante,
Borocante, San Vatkandesta, Borocante,
Borocante,
Borocante.
Alors Saïd Sayag, là on est en Éthiopie et c'est un rite, c'est pour Shabbat, c'est un rite juif en Éthiopie. Alors c'est étonnant quand même cette étendue. Vous me disiez hors micro que en fond les juifs ont beaucoup essaimé ça, la diaspora on le sait, mais y compris dans des zones que l'on n'imagine pas.
Oui, eh bien... Il y a donc des juifs en Éthiopie qui s'appellent les Falachas et dont une grande partie aujourd'hui vit en Israël. Ce sont des juifs de
ce peau qui est étonnant, noire, voilà, c'est qu'ils sont noirs.
De peau noire, mais je vous rappelle que la Miss France de cette année, elle est de ce peuple-là.
Ah bon?
Oui, la fille la plus belle de France est une juive d'origine éthiopienne.
D'accord.
Oui. Alors, l'histoire du judaïsme, mais aussi du christianisme, parce que l'Éthiopie est un pays aussi chrétien, c'est une histoire qui existe, mais qu'on ignore beaucoup, et c'est dommage. Le Yémen aussi était juif, et même dans le Coran, il y a un récit qui situe les événements l'année de la naissance de Mahomet. Le Yémen était juif et il y a eu une attaque des chrétiens d'Éthiopie. Il y avait un royaume chrétien, le royaume d'Aksum, qui s'est christianisé par la suite et qui est intervenu au Yémen. Mais Dieu aurait aidé les juifs du Yémen en envoyant des oiseaux mythiques qu'on appelle Ababil qui ont bombarder cette armée conquérante et qui l'a transformée en une chair qui coince entre les dents. Vous imaginez une description aussi précise?
Tout à fait, oui. Alors l'extrait qu'on vient d'entendre là est tiré d'un livre édité par la Cité de la Musique qui s'appelle « Musique liturgique juive ». Et donc, on doit à Hervé Rotten, et c'est une série de livres sur les musiques du monde, tout à fait précieuses. Malheureusement, la collection vient de s'arrêter. Merci, Saïd Sayag. Vous restez avec nous, on va évoquer d'autres horizons. Merci pour ce très beau livre, « Et à l'eau, tu retourneras », et qui est publié aux éditions L'Armourier.
Merci beaucoup, Alain.
Grand angle.
Eh bien, ce grand angle, c'est pour évoquer une revue, une petite revue qui s'appelle Bout du Monde, bout au pluriel, bien sûr, et qui publie des carnets de voyageurs, mais pas seulement, des nouvelles, des histoires courtes, et beaucoup de photographies, des dessins aussi, une sorte de bande dessinée. C'est une revue qui est assez luxueuse, que l'on peut se procurer par abonnement. Elle est faite à Nantes. Alors, dans le numéro d'été, on a un reportage, un texte sur le Yangtze-Kiang. On se retrouve donc en Chine. Et le texte s'intitule « Les fantômes du Yangtze-Kiang ». Vous savez qu'un grand barrage qui va être construit sur le Yangtze-Kiang va noyer les rives et des milliers de gens vont se retrouver ailleurs, déportés, puisque leur ville, leur village va être sous les eaux. Et alors, la personne qui a fait ce reportage a fait des photographies, de très très belles photographies, tout au long du Yangtze-Kiang, et photographies qui compteront, puisque un beau jour, tout ça disparaîtra sous l'eau. Un autre reportage intéressant dans ce numéro de la revue, c'est un voyage en Sibérie, à moins 30 degrés, et l'auteur nous dit, Guillaume Chauvin nous dit que aller en Sibérie, c'est se plonger vivant dans un roman de Dostoïevski, le tumulte des Toyotas en plus, impossible d'avoir ici une existence normale, tant le pays aime conjuguer l'absurde. Voilà, et je voudrais évoquer un des derniers articles de cette revue, de cette très belle revue, avec, on revient en Éthiopie, avec un papier, un récit et avec des photographies de Guillaume Bourreau qui s'intitule « La Bible est là » et c'est lié à une ville qui s'appelle Lalibela et que l'auteur appelle la Nouvelle Jérusalem des Éthiopiens parce que dans cette ville, on a une communauté orthodoxe. Alors, on a parlé des Juifs, maintenant voilà les orthodoxes avec des lieux de culte qui ont été taillés dans la pierre. Et on a de très, très belles photographies. Alors, un récit, bien sûr, mais de très, très belles photographies à sépia, qui, on les dirait, venues de notre temps, de notre époque, de merveilleuses photographies de ce peuple qui vit à moitié dehors et à moitié dans la roche, avec un peu comme ce qu'on peut trouver en Turquie, en Cappadoce, avec un habitat troglodytique assez étonnant. Belle photographie en noir et blanc, mais virer sépia qui sont magnifiques. Et puis alors, pour vous, Saïd Sayag, je vous dirais qu'il y a un reportage photographique sur les berbères, et donc avec une berbère fantaisie, et donc une très jolie carte d'ailleurs qui montre que l'étendue encore de ce peuple berbère avec de belles photographies en couleur, absolument magnifique. Voilà, ça s'appelle « Bout du monde ». C'est une revue qui est fabriquée à Nantes et qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. La revue de presse, je voudrais vous signaler plusieurs publications. Alors, le dernier magazine littéraire, enfin pas le dernier, l'avant-dernier magazine littéraire a consacré un numéro à Stendhal. Voilà un écrivain voyageur par excellence. On se souvient dans Le Rouge et le Noir ou dans La Charteuse de Parme, les reportages en direct presque qu'on a dans le roman. Et donc le magazine littéraire a consacré tout un numéro à cet auteur avec le récit de ses pérégrinations qui sont nombreuses, tous les pays visités, la Russie, l'Italie bien entendu qui était son pays de prédilection, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche. Et donc, ces pérégrinations, d'ailleurs, beaucoup liées à Napoléon, qu'il a suivi dans, y compris les mauvaises circonstances, puisqu'il a vécu la retraite de Russie. Mais il a refait surface à la Restauration, et donc l'essentiel de son œuvre a été publié après. Mais je voudrais signaler surtout dans ce numéro une interview de Imre Kertész. C'est le prix Nobel hongrois, qui donc était rescapé d'Auschwitz, et qui s'est consacré à la traduction de l'allemand. Il a surtout écrit sur les camps nazis, sur son expérience, puisqu'il a été déporté à l'âge de 14 ans, et qui l'ont évidemment irrémédiablement transformé, y compris dans sa vision du monde, et qui se définit dans cette interview comme le clown de l'Holocauste. ce qui est assez... Il montre bien le tragique un peu de sa situation. Et c'est à l'occasion de son journal 2001-2003, qui s'intitule « Sauvegarde », publié chez Actes Sud, que le magazine littéraire fait cette interview. Je voudrais vous citer simplement une de ces expressions. « Je me suis représenté le totalitarisme sous la figure du père, parce qu'à mon avis, la dictature totale réduit l'homme au stade de l'enfant, à un certain mode de pensée infantile. » Je vous recommande vivement de lire cette interview dans le magazine littéraire. Également, je voudrais vous recommander de lire dans l'avant-dernier numéro de Courrier International un article qui s'appelle « Résister par le verbe ». Il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Shams et qui dénonce dans ses poèmes les dérives du pouvoir. Alors, on sait ce qui se passe actuellement en Tunisie. La constituante a un petit peu de mal à élaborer sa constitution avec des avancées, des reculs. Eh bien, cette jeune femme, elle dit « Moi, je n'irai pas voter ». Et donc, il y a deux ans, Sham Rawani Abdi a écrit pourquoi elle ne participerait pas aux premières élections démocratiques libres organisées depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956. Elle explique que donc, ce qui se passe ne lui convient pas et qu'elle a 21 ans. Et que donc elle veut résister par ses écrits, par ses poèmes. Elle participe à un groupe qui s'appelle Street Poetry, alors en anglais, mais je ne saurais pas le dire en arabe, une initiative culturelle lancée en 2012 par de jeunes poètes tunisiens, Madj Mastoura et Amin Garbi, pour apporter la poésie au peuple dans le dialecte local. On voit bien par là que la littérature, ça sert aussi quelquefois, ça n'est pas simplement un loisir ou une distraction, mais ça sert aussi à résister. Et l'article conclut en disant que cette jeune femme souscrit, envisage de l'avenir avec optimisme et qu'elle souscrit à la philosophie du Libanais Mehdi Amel, pour qui on n'est pas vaincu tant qu'on résiste. D'une détermination intrépide, la jeune militante considère que la résistance fait partie intégrante de la vie. Nous vivons comme nous voulons vivre, en souvenir de Chokri Belaïd. Elle s'est fait tatouer sur le bras « Chokri vit en moi ». Autre information, c'est tiré du monde, d'un monde des livres. C'est une expérience assez curieuse qu'a menée un auteur qui s'appelle François Beaune à l'occasion de Marseille, capitale culturelle de l'Europe. Il a parcouru toute la Méditerranée. Et il a recueilli, micro en main, dans le cadre de diverses manifestations, il est allé recueillir le récit de ceux qu'il rencontrait au hasard de ses pérégrinations ou à l'occasion d'événements. Et il a récolté 1500 récits. Il a mis tous ces récits en ligne dans leur langue d'origine, parfois accompagnés d'une traduction écrite en français. Et je vous signale le site internet que l'on peut consulter, www.histoire-vraie.net www.histoirevraie.net. Et là, vous pourrez, selon votre plaisir et selon votre goût, trouver toutes ces histoires. Donc, il en a fait également un livre. Ça s'appelle « La lune dans le puits ». Et c'est donc une sélection des récits qu'il a pu recueillir. Alors, récits réels, légendes, récits personnels, en fait, toutes sortes de... C'est une approche assez intéressante. Je suis allé voir sur le site. C'est une approche assez intéressante, mi-réelle, mi-imaginaire, de ce que peut représenter la Méditerranée aujourd'hui pour des gens très, très simples, pas simplement des lettrés. Et pour finir, je voudrais vous signaler un très beau livre de Jean-Pierre Perrin. Jean-Pierre Perrin, c'est un grand reporter à Libération qui connaît très bien le Moyen-Orient et qui a été beaucoup en Syrie durant les événements actuels. Qui d'ailleurs, depuis qu'il a écrit le livre dont je vais parler, ne peut plus y retourner parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont et ça ne plaît ni à l'armée dite de Libération, ni au régime du dictateur. Son livre s'appelle « La mort est ma servante » et il dit, donc c'est un roman, mais nourri, un peu comme vous d'ailleurs Saïd, nourri de son expérience de journaliste, et il dit que c'est pour saluer la mémoire de son ami Samir Kassir, éditorialiste au quotidien libanais An Nahar, qui a été assassiné à Beyrouth en 2005, qu'il a voulu écrire ce livre. Donc c'est un C'est pas un livre facile à lire, mais c'est extrêmement documenté. Et je pense que c'est une bonne façon d'avoir une approche vraiment réelle de ce qui se passe actuellement en Syrie. Voilà, ainsi s'achève Gulliver. Merci Saïd Sayak de nous avoir accompagnés au cours de cette heure d'émission. Je voudrais signaler une petite chose, puisque j'ai un petit peu de temps, c'est remercier Jean-Marie Leclésio, Édouard Glissant, Bernard Noël et Blaise Andrard qui nous prêtent involontairement leur voix dans le générique de cette émission. Une émission réalisée par Bruno Bertrand, que vous pouvez retrouver sur Internet au site divergencefm.org. Au revoir, à la semaine prochaine. Gulliver, une émission d'Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand que vous pouvez retrouver en podcast sur le www.divergence-fm.org.